Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avons fait un petit détour par la Grèce. Alors, il ne s'agissait évidemment pas de prétendre que le charlatan était en tant que tel né à Athènes au 5e siècle. Ce que j'ai cherché à faire plutôt, c'était d'identifier trois gestes. Trois registres discursifs articulés au lexique de l'Alazone qui définissent ces trois registres, qui définissent un espace critique dans lequel se dessine une généalogie du charlatan comme figure polémique. Trois gestes donc. Premier geste, celui du rejet du faux savoir par les médecins ou les philosophes au nom de la raison, que celle-ci soit revendiquée par la médecine, Hippocrate, ou par la philosophie, Platon. Et il n'est pas anodin que ces deux disciplines aient été elles-mêmes particulièrement fragiles sur le plan de la crédibilité, parce que leurs résultats pratiques n'étaient pas toujours tangibles. Il leur fallait d'autant plus dénoncer les charlatans, les sophistes, les rhéteurs, qu'eux-mêmes étaient facilement accusés de recourir aux effets puissants et séduisants de la rhétorique. Et l'ambiguïté de la figure de Socrate, sur laquelle j'avais insisté, en témoigne. Le deuxième geste, c'était la satire comique des vices du savoir. Les Nuées d'Aristophane en sont la figure la plus emblématique. L'intellectuel y est présenté comme un parasite, inutile, oisif et dangereux. Tout penseur est un charlatan en puissance, et vous verrez que nous retrouverons cette veine abondamment à l'époque moderne, des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift à la Comédie des philosophes de Palissot. Elle peut tirer vers une autocritique ironique et salutaire du pédantisme académique, mais elle peut aussi prendre une teinte ouvertement réactionnaire quand il s'agit de préserver la cohérence de l'ordre social traditionnel contre les innovations scientifiques et intellectuelles. Et nous verrons, pas aujourd'hui, mais dans d'autres cours, que cette tension est au cœur de l'autocritique du charlatanisme intellectuel. Troisième geste, eh bien, c'était la réflexion que j'appellerais volontiers moraliste, au sens des moralistes modernes, de La Bruyère à Champfort. Une réflexion sur la vantardise et l'ostentation, une réflexion qui permet de s'interroger sur les formes de la tromperie, mais aussi sur la marchandisation des relations sociales. C'est une question que nous avons déjà rencontrée, qui va continuer à nous suivre, là encore. Le charlatan est-il ridicule ou dangereux? Ces fanfaronnades sont-elles un simple vice moral, plus amusant qu'inquiétant, un petit spectacle divertissant, ou sont-elles un vice social dès lors qu'il s'agit de tromper les autres pour en tirer un profit financier? C'est toute la question alors de la confiance dans une société commerciale qui se profile. Alors, ces trois gestes, nous allons les retrouver à plusieurs reprises dans la suite de ces cours. Aujourd'hui, je vais plutôt suivre le premier, la critique donc du faux savoir par les autorités médicales, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XVIIe siècle. Mais ce fil, ce geste, va nous conduire aujourd'hui dans une direction un peu imprévue, je préfère vous prévenir, justement, vers la figure du saltimbanque et de la farce bouffonne. Alors, ça nous changera un peu, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la semaine dernière, j'ai quand même été très sérieux. Platon, Hippocrate, Xénophon, Galien, ça sent un peu son charlatan, ou en tout cas, comme aurait dit Diderot, son pédant. Alors, je vais en rabattre un peu aujourd'hui, mais patience, d'abord revenons quand même, je suis désolé, un peu à Galien, justement. Enfin, plutôt à l'autorité dont Galien a été revêtu pendant des siècles. Son autorité était, vous le savez, importante déjà à la fin de l'Antiquité. Elle a ensuite été transmise aux savants et aux médecins arabes et perses qui ont traduit ses textes et ont adopté des pans entiers de sa doctrine. Comme l'a montré, parmi d'autres, l'historien Peter Portman, la référence à Galien était doublement importante dans l'islam médiéval pour distinguer les bons médecins des charlatans. D'une part, parce qu'elle fournissait un répertoire d'anecdotes sur la lutte de Galien contre les imposteurs. D'autre part, parce que, justement, la connaissance de la médecine grecque, et notamment des traités d'Hippocrate et de Galien, était le principal critère qui permettait de distinguer les bons médecins dans un contexte où il n'existait pas de protection officielle des médecins ou d'organisation, par exemple, en corporation. Ainsi, le grand médecin perse Al-Razi, qui a vécu au tournant des 9e et 10e siècles, a écrit tout un traité contre les charlatans dans lequel il se référait très souvent à Galien. C'est ce qu'étudie Portman dans l'article que vous avez ici. La critique des charlatans était ainsi un élément très important de constitution d'un éthos commun aux médecins, fondé à la fois sur la maîtrise d'un corpus théorique et sur une déontologie qui impliquait le refus de toute forme de tromperie. Al-Razi a été connu, traduit en Europe sous le nom de Razès, et avec Avicenne, qui encore plus connu, qui a vécu un siècle plus tard, eh bien, Al-Razi, Razès, a été, avec Avicenne, un des vecteurs par lesquels, les principaux vecteurs par lesquels la médecine grecque a été transmise à l'Occident médiéval. Et vous avez ici une statue de Razès au pavillon des érudits à Vienne, qui est un complexe de statues offert par l'Iran à l'ONU en 2009. Le Moyen-Âge chrétien, pour sa part, lui est marqué par une évolution importante, transformation à partir, sur ces questions, à partir du XIIIe siècle, avec la création des facultés de médecine, la définition d'un curriculum d'études, la redécouverte justement des autorités de la médecine et Galien en premier plan, et la redécouverte aussi, bien sûr, enfin, le retravail sur la science aristotélicienne. Les historiens de la médecine parlent souvent de médicalisation pour désigner ce processus d'institutionnalisation des pratiques de soins et de professionnalisation des médecins et des chirurgiens. C'est un mouvement qui est encouragé par les autorités, qui elles-mêmes visent à prendre en charge la santé des populations au nom de ce que l'on commence à appeler l'utilité commune et qui impose de bénéficier, de disposer d'un corps médical formé. Auparavant, il existait déjà évidemment des médecins à la cour et dans les villes, mais très peu de certifications publiques de leur savoir. Et de toute façon, le peuple, lui, n'y avait pas recours. Il s'adressait à des guérisseurs ou à des guérisseuses réputées pour leur connaissance des plantes et des remèdes ancestraux. À partir du XIIIe siècle, et surtout dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, ces médecins, désormais diplômés, ont à cœur de se distinguer d'autres types de soigneurs. De même, les chirurgiens et les barbiers s'organisent en corporations auxquelles est assuré un monopole sur les gestes chirurgicaux et les soins du corps. Et c'est un mouvement que l'on retrouve, bon, je mets un petit peu de bibliographie ici, mais sur laquelle je m'appuie, mais que vous retrouverez sur le site, et c'est un mouvement que l'on constate aussi bien dans le royaume d'Aragon et dans les cités italiennes qu'en France. Bon, alors là, quand même, il va falloir que je la joue un peu serrée parce que je suis un peu en train de piétiner les plates-bandes de Patrick Boucheron. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Ne manquerait plus que je parle de la peste noire. Non, en fait, je vous rassure tout de suite, en fait, tout va bien. On a une sorte de deal. Je le laisse un peu parler de Versailles. Et il m'a accordé 15 minutes pour le Moyen-Âge. Il m'a dit 15 minutes, pas une minute de plus, vous le connaissez, il est très précis, hein, il compte les minutes, et voilà. Mais bon, 15 minutes pour le Moyen-Âge, moi je trouve que ça fait l'affaire. On devrait y arriver. Et puis de toute façon, si vous voulez tout savoir sur la peste noire, ben, je crois qu'il y a un livre magnifique qui va sortir dans 2 jours. Donc je peux que vous le recommander. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez le revendre sur eBay dans 25 ans. c'est un bon investissement. Bon, pour ceux qui n'ont pas la rêve, ben, il fallait assister au cours de Patrick Bouchon hier. Alors, dans ce contexte de médicalisation, les critiques et même la répression portent notamment sur des figures populaires et traditionnelles comme la vieille femme, la Vétoula, d'abord disqualifiée pour son ignorance et ses fables, puis progressivement associée à la superstition et à la sorcellerie. Mais la dénonciation des empiriques en milieu urbain sert aussi à marquer la frontière entre une médecine savante et des pratiques jugées douteuses, voire dangereuses. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, ce discours est d'autant plus fréquent que l'activité médicale, en réalité, se déroule très largement en dehors des cadres universitaires et institutionnels. Pour le dire autrement, les empiriques, ces médecins sans qualification officielle, n'étaient pas du tout une minorité de marginaux adeptes de pratiques archaïques. En réalité, c'était la grande majorité des soignants. De même, les empirica, ces remèdes traditionnels, étaient largement utilisés, y compris parfois et même souvent intégrés à la médecine savante. Ce qui n'empêchait pas la petite minorité de médecins et de chirurgiens disposant d'une formation savante ou officielle, notamment universitaire, de chercher à imposer leur autorité. On trouve par exemple ce discours chez un des plus célèbres chirurgiens du XIVe siècle, Henri de Mondeville, qui s'en prend avec virulence aux gens du peuple, incapables de distinguer le médecin expérimenté de celui qui ne l'est pas, et qui, je cite, « croit que tous, tant lettrés qu'ignorants, ont également de science du moment qu'ils s'appellent chirurgiens ». Cette critique de la crédulité et surtout du manque de discernement populaire montre, comme l'écrit Marilyn Nicou, je la cite, « le mépris qu'affiche parfois l'homme de science devant la majorité de la population ». En réalité, le peuple n'était pas le seul à avoir recours à des médecins sans diplôme officiel. Vous voyez par exemple le cas du comte Amédée VII de Savoie, qui meurt en 1390, sans doute du tétanos. Son médecin, Jean de Granville, est accusé de l'avoir empoisonné. Il bénéficiait de la confiance du comte, mais n'avait aucun diplôme. On se mit alors à vérifier tous les traitements qu'il lui avait donné, on s'aperçut qu'il ne correspondait pas, et surtout au niveau des dosages, aux prescriptions qui étaient prévues par la médecine de l'époque. Alors évidemment, il y a une tentation grande qui serait de lire dans cette affaire, comme dans d'autres, un progrès des normes médicales et le discrédit d'un charlatan ayant gagné et honté abusivement la confiance d'un grand. Mais Franck Collard, qui a étudié ce dossier, montre qu'en réalité, de toute façon, personne n'aurait pu sauver Amédée de Savoie, et qu'au fond, ce qui a perdu Granville, c'est la mort du comte, bien plus que sa pratique médicale à lui. Et au fond, plus que de diplôme, il a surtout manqué de chance. À l'époque, même à ce niveau de la société, il n'était pas nécessaire d'être un médecin savant et diplômé pour gagner la confiance d'un personnage éminent comme Amédée VII. Dans un sens comme dans l'autre, l'efficacité thérapeutique restait la véritable pierre de touche. Et c'est son échec avec la mort du comte qui a précipité sa perte. Au XVe siècle, d'ailleurs, le conflit continue. De 1423 à 1427, par exemple, se tient le procès d'un célèbre empirique, Jean de Domprémy, qui se réclamait de la protection du roi lui-même et en tout cas avait su attirer la protection de nombreuses personnes haut placées, mais qui avait été interdit d'exercer et qui, du coup, portait son cas devant le Parlement de Paris, procès qui a été étudié par Laurent Garrigue. Quelques années plus tard, le grand médecin Jacques d'Espard, commentateur d'Avicenne, parlera de Domprémy comme d'un, je cite, un abuseur très présomptueux, téméraire, menteur et effronté. Domprémy, de fait, n'avait aucune formation savante, il ne connaissait pas le latin, peut-être même ne savait-il pas lire le français. En tout cas, ses accusateurs lui reprochaient d'être totalement illettré. Mais c'est intéressant parce que lui mettait en avant l'importance de la pratique et de l'expérience. Il opposait sa compétence technique au savoir livresque des médecins de la faculté. Il reconnaissait volontiers avoir exercé sans licence, mais il défiait les médecins en leur proposant une sorte de petit concours. Il leur disait, allons visiter des malades, on va visiter des patients, on essaye de les guérir et surtout on leur demande à eux leur avis. Et c'est les patients qui vont décider qui est le vrai médecin. Alors évidemment, c'est une proposition, l'idée que les patients soient les meilleurs juges de la compétence des thérapeutes, c'est évidemment une proposition qui était tout à fait inacceptable pour les médecins. Et on voit alors, avec cette affaire, c'est ça qui m'intéresse, un triple clivage se mettre en place. Au fond, trois questions. Premièrement, la question légale. Qui possède l'autorisation de soigner? C'était la question, en réalité, qui était débattue au Parlement. Mais aussi une question épistémologique. Faut-il valoriser le savoir théorique ou l'expérience pratique? Et enfin, la question du crédit ou de la réputation qui bénéficie de la confiance du public. Et sur ce, je regarde l'heure et je vois que mon quart d'heure de visite médiévale est épuisé. Je suis désolé. Et donc, je passe à l'époque moderne. Je rentre chez moi. Ça tombe bien parce que, de toute façon, la critique des empiriques se poursuit. Disons même qu'elle s'accentue au XVIe siècle. Elle devient un thème récurrent, privilégié des médecins humanistes. Les publications visant à alerter le public et les autorités, mais aussi à diffuser le savoir médical au-delà des milieux savants, ces publications se multiplient et de plus en plus souvent dans les langues vernaculaires. Le paradoxe, c'est que la plupart des auteurs, tout en cherchant à vulgariser le savoir médical, se plaignent aussi de sa diffusion incontrôlée. On pourrait faire toute une liste de ces ouvrages qui, au cours du XVIe siècle, ont essayé de maintenir cette démarcation. Et, par exemple, un des plus célèbres, c'est le livre d'André Dubreuil, en 1580, de la police de l'art et sciences de médecine, contenant la réfutation des erreurs et insignes abus qui s'y commettent pour l'aujourd'hui. Et dans ce livre, c'est intéressant, on est en 1580, donc c'est un grand médecin qui, effectivement, dénonce les abus de la médecine, il s'attaque aux empiriques, mais le terme charlatan, on est en 1580, le mot charlatan n'apparaît pas encore. En réalité, il vient tout juste de faire son apparition dans la langue française, du moins telle qu'on peut évidemment la saisir par l'écrit, et son association avec justement cette question des empiriques n'est pas encore totale. En réalité, le terme charlatan, on le trouve pour la première fois, semble-t-il, sous la plume de Jacques Amyot, vous savez bien, traducteur de Plutarque, et c'est justement dans la traduction des œuvres morales de Plutarque, en 1572, puis trois ans plus tard, chez Ambroise Paré, que le terme charlatan apparaît. Il semble ensuite se diffuser assez rapidement dans ce dernier tiers du XVIe siècle. 20 ans plus tard, 1594, la satire Ménippée, vous savez, ce fameux pamphlet, très célèbre pamphlet dirigé contre la Ligue et les Espagnols, elle évoque deux charlatans, sans avoir besoin d'expliquer, deux charlatans installés dans la cour du Louvre qui tiennent la banque, c'est-à-dire qui paradent sur une estrade, comme à Venise, dit la satire Ménippée, pour vendre leur puissante drogue. Vous savez bien, c'est le catholicon d'Espagne. Boniment commercial et propagande politique sont ici associés avec une référence, une allusion très nette, plus qu'une allusion, une allusion explicite en tout cas, au modèle vénitien. Et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ça c'est important, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le mot même de charlatan reste toujours, presque toujours, très fortement associé à l'Italie. Pays de charlatans, dit le médecin Guy Patin, ce qui n'est pas très gentil. Le père Bourg, on est bien plus loin dans le XVIIe siècle, lui affirme que la langue italienne est particulièrement propre à décrire les charlatans et le charlatanisme. Alors, au fond, on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'un nouveau mot, charlatan, venu de l'italien et posé sur une réalité ancienne, les empiriques. On aurait comme ça les Salazones, les empiriques, les charlatans, une sorte de continuité de ce personnage de médecin sans qualification, vendeur d'élixirs miraculeux. Et c'est d'ailleurs peu ou prou la position des historiens de la médecine qui voient dans le charlatan le simple continuateur de l'empirique médiéval. Néanmoins, l'histoire des spectacles urbains nous permet de suivre une autre piste. Vous vous souvenez, je vous avais dit que jusqu'au début du XIXe siècle, et en réalité plus tard encore, eh bien, par exemple, dans l'histoire des charlatans célèbres de Jean-Baptiste Gourier, j'en avais parlé lors de la première séance, eh bien, début du XIXe siècle encore, le terme charlatan désigne avant tout des acteurs et des actrices de rue, ce que l'on appellerait aujourd'hui des performeurs. Alors, bien sûr, le Moyen-Âge n'a pas ignoré les comédiens itinérants, mais l'arrivée des comédiens italiens en France dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et plus encore au début du XVIIe siècle, eh bien, cette arrivée a profondément associé le monde des spectacles forains et celui de la médecine empirique. Et c'est précisément cette indistinction, cette rencontre et cette indistinction que recouvre le terme de charlatan. Elle n'est pas tout à fait nouvelle, hein, j'y reviendrai la semaine prochaine, il y a toujours eu une forme de théâtralité des vendeurs de remèdes et de thériaques, mais là on a vraiment, avec la figure du charlatan italien, eu un nouage très puissant qui se crée. D'ailleurs, s'il y a bien quelqu'un qui, à l'époque, est attentif aux nouveaux mots italiens introduits en français, c'est le grand humaniste et helléniste Henri Estienne qui publie en 1579, ces dialogues du nouveau langage français italianisé dans lequel il prétendait défendre la pureté de la langue française contre l'invasion des mots italiens. Henri Estienne réfléchit à la façon de traduire charlatani en français et il conclut que, pour une fois, parce qu'il est très ennemi des italianismes, eh bien, il conclut que pour une fois, on peut utiliser un italianisme dans ce cas. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une réalité spécifiquement italienne qui n'a pas d'équivalent en français. Hein. Comme, je ne sais pas, les cow-boys, hein, qu'on traduit cow-boy, on dit cow-boy parce que pas exactement bon garçon vaché, jamais vraiment pris. Bref. Et alors voilà ce qu'il écrit. On va lire. Spécialement, quant à ceux qu'il nomme charlatans, il ne se faut ébahir, je vous ai modernisé l'orthographe, il ne se faut ébahir si nous ne pourrions trouver un mot français signifiant tel genre, vu que le métier desquels il se mêle est tel qu'à grand-peine le pourrait-on décrire à un français, sinon en les contrefaisant. Réponse, vous dites la vérité, pour bien décrire ce que c'est que des charlatans de Venise et des autres principales villes d'Italie, il faudrait charlataner. Donc là, au sens de faire le charlatan. Donc il n'y a qu'en les imitant qu'on peut comprendre de quoi il s'agit. Et de fait, dans l'Italie de la première moitié du XVIe siècle, le charlatan revêt une double identité. D'une part, le terme désigne un statut dans certaines régions qui autorise des personnes à exercer des soins, à pratiquer des soins et à vendre des drogues et des remèdes, comme l'a montré Davide Gentilcore, et je l'avais évoqué à la première séance et j'y reviendrai aussi, mais ça c'est la dimension vraiment médicale, mais les charlatans ce sont aussi des comédiens itinérants, des saltimbanques de place publique, des charmeurs de serpents, des acrobates, des musiciens, dont le rôle dans les villes de l'Italie de la Renaissance est indubitable. À Venise, selon l'historienne Rosa Salzberg, ils sont des acteurs de la vie culturelle, notamment parce qu'ils lisent à haute voix les nouvelles et vendent les imprimés bon marché. En France, ces troupes de saltimbanques italiens, que l'on identifie trop souvent et trop rapidement à la Commedia dell'arte, alors qu'en réalité ils sont liés mais ils ne s'y réduisent pas, eh bien, ils arrivent plutôt à la fin du XVIe siècle dans le sillage de cette France italienne décrite par Jean-François Dubos dans son livre justement La France italienne. J'ai oublié de vous mettre la référence, mais ce sera sur le site. Et donc ces comédiens, ces saltimbanques, ces charlatani italiens, sont-ils des comédiens ou des médecins empiriques ? Leur apparition dans la littérature médicale ou paramédicale, eh bien, on peut presque la dater de 1610, sous la forme de la satire, chez un personnage qui s'appelle Thomas Sonnet de Courval, qui est un gentilhomme et un médecin normand, originaire de Vire. Il a fait ses études à Caen, puis s'est lancé dans la publication de satire, ce qui fait de lui un médecin satirique, selon l'expression de Joël Coste, qui a étudié de près la littérature des erreurs populaires. La première satire que publie Sonnet de Courval, en 1609, est dirigée contre le mariage. Rencontre un franc succès, et que fait un écrivain qui rencontre le succès? Il s'empresse de recommencer, et donc il va exploiter le filon et publier une dizaine de satires dans les années suivantes. Mais celle qui nous intéresse, c'est la deuxième, elle est publiée l'année suivante, en 1610, sous le titre « Satire contre les charlatans et pseudo-médecins empiriques ». Elle est en prose cette fois-ci, et donc elle s'attaque aux mauvais médecins et aux faux médecins à grand renfort de sarcasmes et de citations grecques et latines. Courval écrit, affirme-t-il, je cite, « pour découvrir pleinement et mettre en plein jour l'âme et le cœur de tels abuseurs et imposteurs et sonder les ressorts et mouvements occultes de leur tromperie ». Et pour ce faire, Sonnet de Courval distingue trois catégories, les charlatans, les alchimistes et les magiciens. Trois figures d'imposteurs, trois dangers pour la santé du public. Et voici comment il les caractérise. C'est ce que la partie de texte que vous avez à droite. Sous l'étendard et enseigne de la première secte, je rangerai les terriacleurs, charlatans, coureurs, étalons d'assemblée qui vagabondent de ville en ville, de bourgade en bourgade, par les marchés plus signalés et foires plus célèbres. Sous la seconde, les alchimistes et spagyriques, extracteurs de quintessence, distillateurs, fondeurs d'or potable, maîtres de l'élixir ou grande œuvre. Sous la troisième, les yatromages ou médecins magiciens qui usent de billets, charmes, paroles, caractères, incantations et chimagrées, superstitions à la cure des maladies. Alors, si vous vous souvenez du traité hippocratique de la maladie sacrée la semaine dernière, eh bien, vous voyez qu'on retrouve ici l'association des charlatans avec d'autres figures de guérisseurs, notamment ceux qui ont recours à la magie, ce qui était le cas des mages en Grèce. Astrologues et alchimistes occupent une place importante dans la réflexion sur les frontières du savoir médical à la Renaissance. Ils sont omniprésents dans les représentations littéraires du charlatan qui ont été étudiées par Matteo Letta. Un peu de bibliographie. Vous savez que l'alchimie, au sens propre, c'est la science ou la proto-science qui porte sur le monde inanimé et tout particulièrement sur les métaux. Souvent, on la réduit un peu à tort à cette partie de l'alchimie qui vise la transmutation des métaux en or. Ou, à l'inverse, on la confond avec l'occultisme ou avec tout un ensemble de savoirs ésotériques. Mais l'alchimiste au sens propre, c'est celui qui fait des expériences sur les métaux dans un laboratoire. Et dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, lorsqu'il est question dans un contexte médical de l'alchimie, eh bien, c'est surtout aux adeptes de Paracelse que l'on fait référence. Alors Paracelse, il est mort en 1541, mais c'est surtout à partir de 1560 que ces théories connaissent dans toute l'Europe un succès considérable avec la traduction et la publication de ses œuvres, mais aussi la production de nombreuses synthèses par ses disciples. Le paracelsisme, comme on l'appelle à l'époque, est fondé sur une théorie du corps et de la nature qui est aux antipodes de la philosophie scolastique. C'est même un panvitalisme magique, selon l'expression d'Alexandre Coiré. En matière médicale, il rejette toutes les autorités de l'Antiquité et propose, à l'inverse, de traiter les malades par des produits chimiques fabriqués à partir de métaux. Le plus célèbre, c'est l'antimoine qui va donner naissance à la querelle de l'antimoine. Même s'il avait sans doute fait commencer, enfin on sait qu'il avait commencé des études de médecine, il a sans doute jamais passé le diplôme, mais malgré cela, Paracelse, c'est l'empirique par excellence. Il ne se présente pas comme un savant, il s'exprime en allemand et non en latin, il méprise la médecine de son temps, met en avant les savoirs populaires, et le symbole de ça, c'est qu'il s'en prend très vigoureusement à Galien, dont il affirme que les mânes ont été ensevelis au tréfonds de l'enfer. Et il conclut, je cite la traduction de Didier Kahn, « Il faut donc conclure que c'est l'art de guérir qui fait le médecin », vous voyez, toujours cette opposition entre une compétence fondée sur la pratique et l'efficacité thérapeutique opposée à un savoir théorique. Donc, c'est l'art de guérir qui fait le médecin et que ce sont les œuvres qui font le maître et le docteur et non l'empereur, ni le pape, ni la faculté, ni les privilèges, ni aucune université. Et au moment où Sonnet de Courval écrit, c'est un moment où le succès des paracelsistes un peu partout, et notamment en France, le soutien que leur apportent Henri III et Henri IV, suscite la colère des médecins de la faculté. Donc on a ce contexte qui est celui à l'intérieur même de la médecine, d'un conflit et d'une remise en cause de l'autorité fondée sur l'Antiquité et fondée sur la synthèse scolastique. Mais je reviens au charlatan parce que, justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une critique générale des faux ou des mauvais médecins, mais à l'intérieur, hein, vous avez vu, les charlatans ne sont pas confondus avec ces deux autres catégories que sont les alchimistes d'une part et les magiciens de l'autre. Il y a une définition, une signification plus restreinte du terme charlatan qui est associée à l'univers des foires et des places publiques, à l'itinérance des comédiens, et qui ne se confond pas avec celle des alchimistes et des magiciens. Tous cherchent à tromper en s'appuyant sur des savoirs secrets, mais charlatan, lui, s'inscrit plutôt dans la continuité d'une autre figure, dont je parlerai la semaine prochaine, mais le terme était utilisé ici au début du texte, hein, qui sont les thériacleurs, hein, on dit aussi les triacleurs, c'est-à-dire ceux qui vendent la thériaque. Le regard de Courval sur les charlatans est particulièrement intéressant parce qu'il donne de nombreux détails très précis qu'il raconte avoir observés lors de ses voyages entre Montpellier et Paris lorsqu'il était étudiant, puis plus tard à Paris. Et donc il décrit assez longuement dans d'autres passages du livre, il décrit leurs vêtements superbes, autour du cou, leurs chaînes en or qui brillent. Il se déplace sur des coursiers de Naples, des chevaux allemands, accompagnés, je cite, d'une caravane d'écornifleurs et de batteurs de pavés. Ce qui le frappe, c'est qu'il ne s'agit plus de pauvres vendeurs de remèdes sur des estrades de fortune, mais de troupes nombreuses, joyeuses, qui font parade de leurs richesses, qui proposent des spectacles élaborés, à base de jeux d'adresse, de farces comiques, d'animaux exotiques, qui prétendent avoir voyagé dans le monde entier, qui affichent des lettres patentes, mensongères sans doute, mais qui affirment avoir reçu toutes les autorisations officielles. Et Courval raconte, par exemple, à moitié choqué et à moitié admiratif, avoir vu dans la cour du palais de justice un dénommé Hieronimo installé avec toute sa troupe qui donnait des représentations et dont la spécialité était de vendre une pommade contre les brûlures. Alors pour cela, ils faisaient mine de se brûler la main après l'avoir passée au préalable dans une eau ignifuge, puis ensuite il se passait un baume miraculeux, il dit « Ah, regardez, ma main est guérie ». D'autres se donnent des coups de couteau et puis ensuite se blessent et font disparaître leurs cicatrices en surface. Et Hieronimo pratiquait aussi, bien sûr, l'art de l'arrachage de dents sans douleur grâce à quelques trucs dont là aussi je vous reparlerai la semaine prochaine. Sonnet de Courval décrit donc longuement hein, les astuces et les boniments des charlatans, mais surtout, il s'indigne, il est en colère, sa satire est remplie de longues tirades rhétoriques où il déploie toute sa verve contre ses imposteurs, mais aussi contre le peuple si populaire, si crédule. Courval s'époumonne pendant des pages et bientôt, c'est même l'avenir de la France qui est en jeu. Oui, la France qui est déjà en déclin, hein, en 1610, La France qui n'est plus vraiment la France, hein, les bons médecins français ont été grand remplacés par des charlatans italiens, hableurs et hypocrites. Ah non, mais je plaisante pas. Alors, je vous lis un passage. Ah, monde renversé. Ah, France, non plus France. Bon, ça continue comme ça. Parce que la métaphore politique est bien présente, elle est centrale. Et c'est pas tant, d'ailleurs, la question des charlatans politiques, même si le souvenir de la satire Ménipée et Antiligueuse est encore vif. Mais c'est pas encore non plus les charlatans politiques qu'on trouvera à la fin du XVIIIe siècle. C'est plutôt la métaphore médicale du corps politique. Comme un organisme qui implique que la désorganisation de la santé publique par ces mauvais médecins, ces charlatans italiens, eh bien, au fond, elle va désorganiser tout l'État, c'est-à-dire toute la société. Puis on retiendra aussi que les femmes thérapeutes, et notamment les sages-femmes, ne sont pas ménagées. Par Courval, c'est le moins qu'on puisse dire, elles sont renvoyées aux pratiques superstitieuses, parfois même à la sorcellerie. Bon, il faut dire aussi que Sonnet de Courval n'était pas un grand féministe. Hein. J'ai omis de vous citer le titre complet de sa satire contre le mariage, l'année précédente, un discours sur les poignantes traverses et incommodités du mariage, où les humeurs et complexions des femmes sont vivement représentées. Donc je vous épargne ces réflexions misogynes hein, sur les malheurs symétriques, mais non moins douloureux, de l'homme qui a épousé une femme trop belle et de celui qui a épousé une femme trop laide. Bon. C'est assez Courval. Mais j'en reviens plutôt aux charlatans. L'attaque de Courval n'était pas isolée. Elle révèle plutôt une actualité du charlatanisme au début du XVIIe siècle, liée à l'arrivée de ces charlatans italiens depuis la fin du siècle précédent. En 1622 paraît un autre livre en français, Le discours de l'origine des mœurs, fraudes et impostures des charlatans. Remarquez l'orthographe de charlatan. Hein. De fait, il s'agit ici de la traduction française d'un ouvrage italien, celui que vous avez à droite, hein, qui a été publié en 1603 par Scipione Mercurio, un médecin bénédictin italien, connu notamment pour avoir publié le premier traité d'obstétrique en italien, et avec un guide des césariennes. En 1603, il cherche à vulgariser les savoirs médicaux de son temps en s'opposant aux erreurs populaires. Et sur ce point, il s'inspire d'un traité français d'un médecin de Montpellier, Laurent Joubert, paru en 1578, intitulé « Erreurs populaires du fait de la médecine ». Le titre de Mercurio est d'ailleurs proche de celui de Joubert, hein, « Les erreurs populaires de l'Italie ». C'est le livre des erreurs populaires. C'est le traducteur français qui met en avant les charlatans. Et de fait, il est assez intéressant d'observer les choix qu'il a faits. Alors vous allez me dire, qui est ce traducteur ? Eh bien, c'est difficile de le savoir, parce que la traduction est anonyme, elle ne contient pas de paratexte, mais la plupart des spécialistes estiment qu'il s'agit de Jean Duret, qui était le médecin d'Henri IV et de Marie de Médicis, et professeur de médecine au Collège Royal. Et les choix qu'il a faits expliquent le changement de titre, car en réalité, là, la symétrie est trompeuse, car Duret, si c'est bien lui, n'a traduit qu'une petite partie du livre, en réalité, de Mercurio. Il n'a traduit que les chapitres concernant justement la dénonciation des charlatans. C'est intéressant, en fait. Mercurio donc a fait un long livre sur les erreurs populaires et Duret a traduit la dénonciation des charlatans. Il les définit comme cela. Premièrement, par ce mot de charlatan, j'entends ceux que les Italiens appellent saltimbanchi, basteleurs, bouffons, vendeurs de bagatelles et généralement toute autre personne laquelle, en place publique, montée en banc, à terre ou à cheval, vend médecine, baume, huile ou poudre composée pour guérir quelque infirmité, louant et exaltant sa drogue avec artifice et mille faux serments, en racontant mille et mille merveilles. Hein, vous remarquez que le mot spécifiquement hein, italien, ici, ce n'est pas charlatan, même s'il est encore écrit à l'italienne. Hein, c'est saltimbanchi, qui, bien sûr, dans le texte italien, n'a pas d'italique. C'est le traducteur qui a rajouté un italique et qui a rajouté ce que les Italiens appellent. Donc, trois éléments ici sont associés. D'abord, Le charlatan se définit par un lieu, la place publique, et par son association avec les spectacles de rue. Deuxièmement, la vente de remèdes. Enfin, comme d'habitude, la tromperie, hein, c'est les artifices mille faux serments. Mais au fond, le ressort principal de la critique ici, c'est la confusion des registres. La médecine, qui est une chose noble et grave, est mélangée avec la bouffonnerie. La critique de la crédulité publique, à laquelle s'attachent aussi bien Courval que Mercurio, faut remarquer que cette critique de la crédulité publique, elle n'est pas tout à fait sans risque. Car l'un comme l'autre, pour mieux combattre l'attrait des charlatans, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils les décrivent. Ils les décrivent longuement, avec un luxe de détails qui interroge, comme si, au fond, ils ne pouvaient s'empêcher d'être à leur tour fascinés par les stratagèmes et les talents de bonimenteurs de ces charlatans. Et c'est peut-être particulièrement vrai chez Courval, dont le texte est d'abord littéraire, si la distinction a un sens au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, c'est une satire, mais c'est vrai aussi dans un traité de vulgarisation médicale comme celui de Mercurio. Comme l'a montré dans un très joli livre Ariane Bale, le boniment tient une place importante dans la fiction du XVIe siècle. Le terme, évidemment anachronique, et le terme boniment est anachronique, bien sûr, mais il désigne un discours de réclame, une performance oratoire qui vise à vanter les mérites d'un bien dans le but de le faire acheter, de séduire et de tromper. Rabelais, par exemple, en joue beaucoup. Par exemple, si vous repensez au prologue du Pantagruel, je ne vais pas m'arrêter là aujourd'hui, mais il y a tout un langage qui est celui du boniment. Le boniment inquiète, il fascine parce qu'il apparaît comme un modèle théâtral de l'éloquence qui se pose comme un rival potentiellement dangereux de la prédication. C'est l'envers, le bonimenteur, c'est l'envers du prédicateur. Simplement, il ne s'agit plus de louer Dieu, mais de louer des marchandises ou des individus. Cette fascination des écrivains du XVIe siècle pour les figures de la tromperie rhétorique correspondrait, si on suit l'analyse d'Ariane Bell et de quelques autres, correspondrait à un moment de crise épistémologique lié à l'éclatement de la chrétienté, à l'essor de la science et de l'humanisme, peut-être, si on veut encore généraliser, à la crise des grandes certitudes. Si Dieu n'est plus le seul garant de la vérité, alors se pose de façon de plus en plus vive la question de la simulation, de la séduction oratoire, de la tromperie par la parole. Dans ce contexte, même les médecins peuvent, par moments, ressentir une certaine envie à l'égard des facilités rhétoriques des charlatans, de leur façon de susciter l'adhésion et la croyance. Dans les digressions bavardes de Courval ou de Mercurio, il y a peut-être comme un désir secret, l'aveu d'une fascination pour la liberté verbale du charlatan. Enfin, ce qui paraît sans doute particulièrement dangereux aux médecins français dans cette figure nouvelle du charlatan, c'est qu'elle réunit tout ce que le système de santé officiel cherchait justement à séparer. Les médecins s'occupaient de la théorie et des maladies internes, de l'invisible, comme on disait parfois, les chirurgiens et les barbiers des plaies, des fractures, des soins extérieurs, les apothicaires de l'approvisionnement en drogues et remèdes. Ils appartenaient à des communautés professionnelles clairement délimitées et hiérarchisées sous le contrôle des médecins et de la faculté. Les charlatans, eux, ils faisaient tout. Ils faisaient à la fois le diagnostic, les opérations, ils vendaient des drogues, ils vendaient des cosmétiques et par-dessus le marché, ils amusaient le public avec un spectacle surprenant, divertissant. De fait, le contexte dans lequel est publiée la traduction française du livre de Mercurio, donc sous le titre, vous l'aviez tout à l'heure, « Discours de l'origine des mœurs, fraudes et impostures des charlatans », en 1622, je vous le rappelle, eh bien ce contexte, c'est celui du succès de deux comédiens, Mondor et Tabarin, qui jouaient sur la place Dauphine, exactement dans ces années-là. Et de fait, c'est intéressant parce que Duret a ajouté au texte de Mercurio une conclusion destiné où il évoque explicitement Tabarin, en lui dédiant ironiquement le livre, et de même, 3 ans plus tôt, en 1619, Sonnet de Courval avait réédité sa satire sous un nouveau titre, encore plus explicite, Les tromperies des charlatans découvertes par le sieur de Courval. Et d'ailleurs, non seulement il la réédite, nouveau titre, c'est malin, nouveau format, toute l'érudition a disparu, plus de citations grecques, plus de citations latines, un style beaucoup moins exubérant, et surtout, tout cela est réduit à une brochure de 16 pages, aujourd'hui un tract ou un libelle, je ne sais pas. Il a sans doute eu aussi plus d'écho, puisque immédiatement, Tabarin, qui commençait en 1619 à avoir du succès sur la place Dauphine, eh bien, lui répond avec la réponse du sieur Tabarin au livre intitulé « La tromperie des charlatans découverte ». Mais alors, qui est ce Tabarin ? Alors en fait, il a commencé à jouer en 1619, on pense, juste au moment où, peut-être l'année précédente, mais on n'en a pas de témoignage, et donc sur des tréteaux, sur la place Dauphine, avec son acolyte, donc nommé Mondor. Mondor, lui, il incarne le rôle du médecin savant, tandis que Tabarin, c'est le trublion bouffon. Alors, ils se prétendent italiens, mais en réalité, ce sont deux frères, Antoine et Philippe Girard. Philippe joue Mondor et il est effectivement docteur en médecine. Antoine semble être avant tout un comédien particulièrement doué pour la farce. Il rencontre un succès immédiat avec un duo comique très bien rodé que l'on connaît grâce à plusieurs publications, notamment le recueil général des œuvres et fantaisies de Tabarin, paru en 1622. Il s'agit d'un recueil des plaisanteries de Tabarin, publié par un habitué, qui semble les avoir transcrites sur place. Et ce volume sera suivi immédiatement, l'année suivante, d'un second recueil plus complet, l'inventaire universel des œuvres de Tabarin. Peut-être publié par l'auteur lui-même, et ensuite de très nombreuses rééditions dans les années qui suivent. Alors, ces publications, le recueil, l'inventaire universel et puis d'autres publications qui suivent, elles nous permettent de nous faire une idée, même approximative, du spectacle que donnaient Tabarin et Mondor. Au cœur du dispositif, des scénettes, toujours sur le même modèle, Tabarin pose à son maître des questions grotesques, absurdes, souvent des pièges. Par exemple, quel est le premier créé de l'homme ou de la barbe ? Ou quel est le meilleur, avoir la vue aussi courte que le nez ou le nez aussi long que la vue ? Alors d'autres sont plus prosaïques. Pourquoi les chiens lèvent la jambe en pissant ? Voire franchement bouffonne, lequel il faudrait couper si le nez était dans le cul. Alors, Mondor fait mine de se fâcher, sa dignité est compromise, mais il tâche de répondre de façon très savante dans une parodie de discours scolastique. Puis Tabarin le contredit et lui apporte une réponse scatologique, obscène ou tout simplement fondée sur un calembour. Alors, j'avoue que j'ai hésité, mais il m'est malheureusement difficile de citer ici les plus délectables. C'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Je laisse à celles et ceux qui, comme moi, sont amateurs de ce type de comique, le plaisir de les découvrir par eux-mêmes. Le recueil général est disponible sur Gallica et dans une édition commentée par Charlotte Farcé aux Belles Lettres. Cette apparente simplicité du dispositif permet en réalité d'articuler plusieurs registres. On reconnaît d'abord le monde de la farce, du comique médiéval et carnavalesque, le renversement du haut et du bas, la dérision des autorités et des hiérarchies par la mise en évidence du corporel. Il est beaucoup question d'excréments et de flatulences, le mot « cul » revient de manière obsessionnelle. Et on pense évidemment au livre de Mireille Bakhtine sur la culture populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance. Celle-ci se double ici d'une dimension très théâtrale. Tabarin improvisait, il faisait des sauts, des bonds, il jouait beaucoup avec son manteau et son chapeau. Tout était bon pour capter l'attention du public, et cela était nécessaire car la place Dauphine donnée sur le Pont Neuf, qui donne toujours d'ailleurs, qui était un lieu de passage bruyant, à la fois un marché à ciel ouvert, une aubaine pour les badauds et les curieux, mais aussi pour les fripons et les brigands. Sur ce plan de 1615, vous voyez la place Dauphine juste en face de la statue d'Henri IV qui venait d'être érigée. Ensuite, on distingue un mode plus littéraire, celui des facéties, un comique de la parodie et de la dérision qui connaît alors une véritable vogue littéraire. Les dialogues bouffons de Tabarin font écho aux comédies jouées au même moment par les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, comme Gros Guillaume, Turlupin et Gauthier Garguille, mais aussi à de nombreuses facéties littéraires qui reposent sur la folie et le burlesque. Ce monde du début du XVIIe siècle était étrangement hospitalier à la folie, avait déjà relevé Michel Foucault. Et de fait, nous sommes très loin du grand siècle de la raison, de l'ordre et du bon goût de Louis XIV faisant visiter les jardins de Versailles. Ici, c'est plutôt la fête du mauvais goût, plaisanterie absurde, obscénité, eschatologie. Des pseudo-questions philosophiques sont débattues avec une fausse gravité pour aboutir à une grossièreté gratuite. Car, et c'est mon troisième point, dans les textes de Tabarin, je dis car, mais en fait, c'est plutôt pourtant, cependant, dans les textes de Tabarin, ou publiés sous son nom, transparaît une véritable érudition qui organise, on la voit très bien dans les discours de Mondor, dans les réponses de Mondor à Tabarin, qui sont des parodies du discours savant et de la disputatio scolastique. Mais ils impliquent, dans la manière dont ils sont formulés, ils impliquent une connaissance d'Aristote et de Galien, et toutes ces références, à peine cachées, étaient là, évidemment, pour amuser aussi un public plus instruit, et notamment un public d'étudiants qui, nous le savons, étaient nombreux. Et d'ailleurs, par exemple, dans une petite brochure qui s'appelle « Les étrennes universelles de Tabarin pour l'an 1621 », eh bien, Tabarin offre un Galien in folio. Il y a donc bien un jeu, si vous voulez, avec l'autorité, une façon de détrôner tout discours savant en lui opposant l'expérience et le corporel, l'insolence populaire. D'ailleurs, Tabarin, dans un de ses textes, prétend être docteur régent de l'université de la place Dauphine. Et comme l'a écrit l'historien de la littérature Michel Jeanneret, l'université de la place Dauphine est celle des causes ineptes, des spéculations absurdes et de la science dévoyée. C'est dans son très joli livre, « J'aime ta joie parce qu'elle est folle », il y a un chapitre consacré à Tabarin. Science dévoyée. Dévoyée, certes, mais science néanmoins. Une science histrionique, parodique et ludique. Il ne faut donc pas s'arrêter à la grossièreté, à la bouffonnerie de Tabarin. Il y a en réalité dans ces plaisanteries et ces facéties une inventivité langagière, une vivacité savoureuse qui attirait le public et l'amusait, un jeu sur les mots, un jeu sur les sonorités qui visait à renverser, à culbuter les pesanteurs de la langue savante, comme l'a bien noté Charlotte Farcé dans son commentaire. Alors je résume. Registre de la farce, facéties littéraires et enfin parodies savantes. Tout cela dessine, pour citer à nouveau Michel Jeanneret, une zone grise où convergent la bouffonnerie et la science, qui est une rencontre nécessairement réjouissante. Mais ces approches littéraires et théâtrales sont tout à fait importantes et justes, et néanmoins, eh bien, elles laissent étrangement de côté tout un aspect du spectacle de Tabarin, la vente de remèdes. Car c'est bien sous cet angle que nous l'avons rencontré, à travers la traduction de Mercurio, où l'auteur dit avoir, je cite, « essayé les drogues de Tabarin ». Et c'est aussi sous cet angle, évidemment, que Courval l'attaque, et c'est sous cet angle que Tabarin se défend entièrement dans la réponse de Tabarin, où il dit que personne, jamais, n'a eu à se plaindre de ces remèdes. Et de fait, la médecine est bien présente dans le spectacle lui-même, y compris dans les scénettes comiques. Le premier dialogue rapporté dans le recueil général porte justement sur la question « Qui sont les meilleurs médecins et comment on connaît les maladies ?» Je vous fais grâce de la conclusion qui est strictement scatologique. Un autre dialogue interroge « Qui sont ceux qui se moquent des médecins et des apothicaires ?» Et un autre encore conclut qu'il vaut mieux laisser la mule du docteur visiter le malade pendant que le docteur attend en bas. Donc, tout un discours, si vous voulez, au second degré, autour justement de la question de la légitimité du savoir médical par rapport à une expérience, même si cette expérience, elle est traitée sur un mode comique. Et surtout, entre les moments comiques, Tabarin vendait des remèdes. Voyez par exemple, enfin voyez surtout, cette gravure d'Abraham Bosse, qui représente le théâtre de Tabarin au début des années 1620. On reconnaît, alors, donc, ici, on a Mondor, hein, qui est habillé en médecin, très sérieux, et puis alors, ici, on a Tabarin, avec son chapeau, bon, c'est un peu petit, vous êtes loin, mais ici, on voit son chapeau avec lequel il jouait énormément, et puis ce manteau très large, qu'on appelait justement un tabar. Et c'est de là qu'il tient son nom. Et puis, vous voyez ici, il y a toute une troupe de musiciens hein, qui jouent de la musique. Et puis ici, alors voilà, c'est trop... Je suis désolé, je ne peux pas agrandir parce que je n'ai pas une meilleure qualité, mais ici, vous avez une boîte, un coffre, avec tous les remèdes, les fioles, les liquides, les onguents que vend Tabarin. Et on voit aussi, hein, j'ai oublié de le dire, mais vous voyez ici le public, hein, qui est visiblement nombreux et d'ailleurs divers. On voit aussi des gens, on voit des étudiants, on voit des gens à cheval. D'ailleurs, le discours de l'éditeur du recueil de 1622 tourne en dérision hein, cette diversité. Il évoque les courtisans, les marchands, les pâtissiers, les étudiants, les criminels, les savetiers, tous réunis sous le titre de « disciples et sectateurs ordinaires de la philosophie de Tabarin ». Et donc, au fond, il semble presque y avoir deux Tabarins. Le médecin charlatan, attaqué par Courval, qui se défend sur la valeur de ses remèdes, et le charlatan farceur, réputé dans Paris pour ses spectacles burlesques. Eh bien, il faut accepter que ces deux éléments étaient profondément liés et ne semblaient pas du tout contradictoires aux contemporains. D'ailleurs, plusieurs autres textes de l'époque mentionnent le fait que Tabarin jouait des farces pour mieux vendre ses drogues. Et nous voici en face d'une énigme. Est-ce que le spectacle a en effet pour but d'attirer les badauds, de les amuser pour leur vendre ensuite des remèdes? Ou est-ce que la vente de remèdes est totalement secondaire? C'est possible aussi. Peut-être même que c'est un simple élément associé au personnage du charlatan. On ne sait même pas, est-ce qu'il les vendait vraiment, les remèdes là, qui étaient sur la scène. Peut-être encore était-ce une façon de rémunérer les acteurs, sans que personne ne soit véritablement dupe. On lui achète ses produits, c'est une manière de le payer, de lui permettre de vivre. À ce stade, le charlatan Tabarin, est-il un imposteur qui cherche à tromper ou celui qui révèle publiquement, dans un grand éclat de rire, que le monde est rempli de charlatans et que les plus savants ne doivent surtout pas être pris au sérieux? Alors, vous voyez, sur la gravure, il y a un point que je n'ai pas commenté. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'en suis pas sûr, mais vous voyez, il y a une affiche au-dessus du théâtre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette pancarte, en réalité, qui est au-dessus du théâtre? Il y a écrit ceci. « Le monde n'est que tromperie, ou du moins charlatanerie. Nous agitons notre cerveau comme Tabarin son chapeau. Chacun joue son personnage, tel se pense plus que lui sage, qui est plus charlatan. » Ainsi, Tabarin, tout en étant qualifié de charlatan par association avec les saltimbanques italiens, au fond, n'aurait rien d'un empirique, d'un faux médecin. Ceci, d'ailleurs, les empiriques, tels que nous les avons vus et tels que surtout nous les retrouverons au XVIIIe siècle, ne jouaient pas tellement sur le registre de la farce et de la dérision, mais prenaient au contraire de grands airs, cherchaient à en imposer au peuple par leur magnificence et leur grandiloquence. Le spectacle de Tabarin visait-il en réalité à se moquer des charlatans? Eh bien, je n'ai pas la réponse, en tout cas pas cette semaine. Eh oui, ça, le bon charlatan. Il y a d'emblée, à l'origine même du charlatan, une part d'incertitude, une part de doute, comme un mystère fondateur. Le charlatan est-il un imposteur qui trompe le public pour en tirer profit, ou est-il celui qui révèle que le monde n'est qu'un grand théâtre du mensonge généralisé, qu'il faut se méfier des discours savants et qu'au fond, dans leur apparente bouffonnerie, les fous sont les seules personnes vraiment sensées. Le succès de Tabarin a été considérable, ça on n'a aucun doute, même si aujourd'hui il est très largement oublié, on le voit par le nombre de textes publiés qui utilisent son nom dans les années suivantes. Les œuvres et facéties de Tabarin, les fantaisies plaisantes et facétieuses du chapeau à Tabarin, les œuvres de Tabarin avec les aventures du capitaine Rodomont, la farce des bossus et autres pièces tabariniques, ou encore la descente de Tabarin aux enfers avec les opérations qu'il y fit, de son médicament pour la brûlure depuis le carême dernier. Et on retrouve le mélange de farces et de pommades miraculeuses. Tabarin est resté dans la mémoire collective parisienne et littéraire, puisque Boileau reproche à Molière d'allier Terence à Tabarin dans les fourberies de Scapin. Et on le retrouve jusque dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Oui, non, mais vous savez, je suis obligé de citer Voltaire à chaque séance, c'est dans mon contrat, c'est contractuel. Et Voltaire, il dit « Tabarin est devenu un nom commun ». Tabarin, valet de Mont-d'Or, charlatan sur le Pont-Neuf au temps de Henri IV, fit donner ce nom au bouffon grossier. Pourtant, le succès de Tabarin n'a pas duré longtemps. On le voit arriver en 1619, on le suit jusqu'en 1622-1623, après avoir gagné assez d'argent pour s'acheter, semble-t-il, une petite seigneurie. Le commerce marchait bien. Eh bien, Antoine Girard, dit Tabarin, est mort en 1626, c'est-à-dire que nous commémorons cette année les 400 ans de sa disparition, ce qui valait bien la peine de s'arrêter un peu sur lui. Et donc, en son honneur et comme modeste participation à ce quadricentenaire, je propose d'appeler Théorème de Tabarin cette morale ironique et démystificatrice qui orne, nous l'avons vu, la gravure. Chacun joue son personnage. Tel se pense plus que lui sage, qui est plus charlatan. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.